Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Notre invité est une jeune pousse dans la grande famille de l'entrepreneuriat. Richard Jelian vient de créer Petit Bio. Il souhaite aider les petits à mieux manger dans les crèches. Entendez par là manger des produits frais et bio. Son objectif, livrer des repas aux crèches de Toulouse. Bonjour Richard Jelian, votre histoire est passionnante et certainement riche d'enseignements pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou pour ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs toute votre place dans Le Goût d'entreprendre, bienvenue. Vous êtes Richard, un tout jeune créateur d'entreprise. En fait, vous vous lancez en ce moment.
Bonjour, oui, je suis en train de constituer, de réunir les dernières briques avant le démarrage de l'activité, démarrage opérationnel pour la rentrée scolaire prochaine.
La rentrée scolaire, la rentrée de septembre. Alors Richard, qui êtes-vous? Petit Bio, c'est quoi? Des repas, on le disait dès le début de cette émission, des repas que vous préparez pour les petits dans les crèches?
Tout à fait. Petit Bio a pour ambition de contribuer à son niveau à la santé et à la vie gustative des enfants, des petits-enfants, des enfants de moins de 3 ans, en proposant des repas sains et gustatifs à partir d'ingrédients bio, frais, de saison et le plus possible locaux. L'enjeu, c'est vraiment de permettre aux enfants de pouvoir découvrir des saveurs dans cette phase des 1000 premiers jours de développement de l'enfant, qui sont extrêmement importants pour leur développement et gustatif et également d'ailleurs physiologique.
Alors les repas bio en crèche, hein, c'est une tendance lourde. Hein. Les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, bien sûr. Ça existe déjà des crèches qui confectionnent leur repas à partir de produits locaux en utilisant les circuits courts.
Oui, tout à fait. Tout à fait, ça existe, on le voit déjà depuis une bonne dizaine d'années, mais ce n'est pas commun et encore moins à Toulouse pour différentes contraintes, difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, les crèches ont plusieurs possibilités. Soit elles fabriquent elles-mêmes les repas, soit...
Donc il y a une cuisinière, il y a un chef en fait.
Aujourd'hui, il y a deux grands modes de gestion des repas. Soit on fabrique sur place, et c'est de moins en moins le cas parce que les contraintes sont très difficiles et les moyens financiers également. Et soit on passe par une cuisine centrale, municipale ou privée. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau des crèches, on a de plus en plus tendance à passer par des crèches, par des cuisines centrales privées.
D'accord.
Et aujourd'hui, le contexte est que derrière, la collectivité, les restaurations collectives proposent des services où on ne retrouve pas forcément de produits frais de saison, on est plutôt sur les cuisines d'assemblage, où on a perdu, on s'est déconnecté sur les dernières décennies dans les cuisines centrales, on s'est déconnecté de la saison et des producteurs et de cette culture de bien manger, pour des raisons d'ailleurs de gérer des coûts, etc. Donc
c'est
aujourd'hui,
ça, ouais.
Petit Bio veut vraiment se démarquer et se différencier en disant voilà, on peut réancrer une structure, une cuisine, on va dire régionale, réunir des acteurs et cuisiner des repas de qualité et en impliquant également d'ailleurs les consommateurs ou en tout cas les crèches pour ce sujet, pour Petit Bio, dans l'évolution et le développement de cette activité et des services qui vont être proposés.
D'accord, donc c'est travailler tout autour du produit en fait pour permettre aux enfants de mieux le connaître, mieux l'appréhender.
C'est de travailler sur la qualité des repas et également d'ailleurs travailler sur des repas qui vont vraiment répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant à chaque étape de leur développement. Les enfants, c'est comme des sportifs de haut niveau et ils passent sur les 3 premières années par différentes grandes phases de développement. Ils ne peuvent pas ingérer des ingrédients à 8-9 mois
comme un adulte
sur certaines légumineuses par exemple. Donc l'enjeu c'est de leur proposer vraiment des repas qui soient adaptés à leur système digestif et à leur développement, à leurs besoins notamment nutritionnels et en termes de calories, etc. également. Et également d'ailleurs de travailler sur les qualités parce que jusqu'à 2 ans l'enfant est apte à manger de tout. L'évolution des connaissances sur la nutrition, la santé également considérablement évolué, en évolution permanente d'ailleurs. Et donc du coup, on redécouvre des choses et on s'aperçoit notamment sur les allergies, sur l'introduction des morceaux, etc. qu'il faut vraiment, il y a des phases importantes et des fenêtres à ne pas louper, à ne pas rater dans la vie et le développement d'un enfant pour lui permettre ou lui assurer un meilleur développement.
Oui, tout à fait. Les crèches travaillent généralement avec des diététiciennes.
Les crèches travaillent avec des diététiciennes qu'elles ont à la gestion des repas ou sinon elles s'appuient aussi sur l'expertise du prestataire également, qui s'appuie évidemment et logiquement en tout cas sur les compétences et l'expertise d'un diététicien nutritionniste.
Comment, Richard, avez-vous fait votre étude de marché?
Alors, Il se trouve que tout est arrivé en fait, c'était en 2016, en tant que jeune papa, ouais. En déposant ma fille, je suis parti d'un constat, en déposant ma fille en crèche, où je me suis aperçu que la qualité des repas ne correspondait pas à mon projet de jeune parent, mm-hmm. Sur la qualité des repas bio et frais.
Vous attendiez autre chose.
J'attendais autre chose, et je savais que c'était possible, ça se faisait ailleurs. Donc du coup, à partir de là, je me suis proposé comme parent bénévole pour impulser une dynamique, où j'ai proposé à ma crèche, micro-crèche, 10 repas jour, de réunir d'autres crèches et de réfléchir ensemble sur quelles sont les autres alternatives possibles, comment est-ce qu'on peut accompagner, faire une pression positive, constructive avec les prestataires actuels pour faire évoluer. Et en réunissant une quinzaine de crèches, deux réseaux départementaux de crèches et également le regroupement de producteurs bio du département, Érable 31, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai besoin et que peut-être les acteurs existants et en activité aujourd'hui n'allaient pas forcément répondre à ce besoin rapidement, mais peut-être dans quelques années, 4, 5, 6, 7, 8 ans.
D'accord.
Et que le besoin aujourd'hui, pour beaucoup de parents et notamment des crèches, le besoin était là maintenant tout de suite. Donc je me suis décidé en fait à ce moment-là, avec cette dynamique et cette dynamique collective et ces crèches, de réfléchir et de les impliquer dans cette co-construction du projet. Et c'est comme ça qu'en 2016, petit à petit, on s'est réunis avec des crèches et on est parti de leurs difficultés, leurs contraintes, quels sont leurs besoins, et progressivement je leur ai proposé un scénario qu'on a construit, co-construit ensemble.
Donc c'est bien mieux qu'une étude de marché en fait.
C'est bien mieux que l'étude de marché parce qu'on
part.
On a eu vraiment, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une disponibilité, en tout cas des crèches, qui m'ont permis derrière de me donner du temps. Et des informations qui ont été précieuses d'ailleurs pour vraiment façonner et adapter un service sur mesure.
Et vous avez eu une vraie écoute ?
Tout à fait, parce que ça, aujourd'hui, les crèches, le milieu de la petite enfance, ont cet avantage où les adultes qui accompagnent, les professionnels de la petite enfance, accompagnent les enfants toute la journée. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, on va dire, la complémentarité des parents et elles passent tellement de temps avec ces enfants au quotidien qu'elles ont un lien, elles ont une affection de vouloir bien faire, elles ont une volonté de bien faire. Et donc, du coup, elles sont beaucoup plus sensibles peut-être et attentives et demandeuses d'une vraie qualité. De par leur profession, leur sensibilité sur aussi la petite enfance, mais également parce qu'il y a un contact au quotidien, toute la journée, avec les mêmes adultes, avec les mêmes enfants.
Ouais.
On ne retrouve pas forcément ça plus tard en école primaire, en collège ou lycée, où il y a déjà plusieurs types d'adultes qui sont en relation avec l'enfant toute la journée.
Là, nombre est plus important aussi.
Et le nombre est plus important.
Voilà.
Ouais. Donc du coup, il y a une très grande sensibilité, une volonté, et il y a eu en tout cas une très grande écoute et attention de la part des crèches à ce niveau-là.
Donc ça a été vraiment précieux pour vous lancer, donc pour lancer votre entreprise.
Oui, on le sait en tant qu'entrepreneur, si le marché n'est pas confirmé, si l'attente n'est pas là, il n'y a pas lieu d'ailleurs de créer, de se lancer. C'est que d'ailleurs, l'idée qu'on avait ne correspond pas à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, c'est compliqué de lancer. Il n'y a pas d'entreprise où c'est difficile de lancer quelque chose.
Bien sûr.
On peut être précurseur, avant-gardiste, mais il faut avoir dans ce cas beaucoup de moyens pour attendre que la culture ou le besoin arrive.
Arrive, oui, c'est ça, tout à fait. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait ? Racontez-nous votre parcours. Alors on veut tout savoir, minute par minute.
Il se trouve que auparavant, juste quelques mois avant, j'avais déjà pu bénéficier d'une entrée, on va dire, progressive dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé déjà à rencontrer les différents acteurs du milieu de l'entrepreneuriat ou qui accompagnent, les structures qui accompagnent des porteurs de projets à but donc de créer une entreprise pour vérifier que ce projet ou cette idée-là n'était pas en cours de développement pour m'assurer qu'il n'y avait personne sur ce marché, ou en tout cas sur cette réponse, cette préparation-là, et ou aussi identifier les acteurs qui auraient été déjà en activité ou en réflexion pour leur proposer également d'ailleurs de réfléchir ensemble à quelque chose. Donc j'étais vraiment dans une dynamique de est-ce qu'il y a des acteurs et est-ce qu'on peut être complémentaire, est-ce qu'on peut même s'associer, parce que cette dynamique-là, moi je tenais vraiment à la développer. Il se trouve que ça m'a permis donc de faire le tour de différents types d'acteurs, de structures d'accompagnement, de porteurs de projets, de pépinières, d'incubateurs, etc., et de constater qu'il n'y avait personne encore sur ce marché-là que je bénéficiais également d'ailleurs d'un encouragement à réfléchir et à pousser vraiment cette idée, à développer cette idée.
Donc vous avez rencontré des coachs, des chefs d'entreprise déjà ou...
J'ai rencontré des coachs, des structures de conseil qui accompagnent les entrepreneurs. J'ai rencontré également d'ailleurs des structures d'accompagnement de projets comme le réseau Première Brique, qui est un incubateur, on va dire, de porteurs de projets sur Toulouse Métropole. Également le Parcours Adresse, qui est un dispositif d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Mmh.
Et tous ces acteurs-là, accompagnés, enfin, en complément d'autres acteurs comme l'Agence régionale de développement économique et d'innovation, qui s'appelle maintenant Adhoc, l'agence anciennement Madeli, maintenant c'est l'agence Adhoc. Tous ces acteurs-là m'ont confirmé qu'il n'y avait personne en tout cas, et ça m'a permis de faire un premier tour également pour tâter le terrain et voir quels étaient éventuellement les dispositifs, quels étaient les éléments à prendre en compte dans ce démarrage de projet.
Avant de lancer, c'est un travail que doit faire tout entrepreneur, ça, avant de se lancer. Ça vous a vraiment aidé? Ça vous a vraiment donné l'impulsion?
Ça m'a aidé, ça m'a consolidé dans ma volonté de me lancer. J'ai eu des signaux, plein d'indicateurs. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de feux rouges. J'ai eu des feux verts.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est extrêmement important et motivant pour dire OK, on continue. Il y a eu quelques points de vigilance, etc. Mais à chaque fois, ça a été bénéfique et ça m'a encouragé. J'ai eu beaucoup de soutien, d'encouragement pour dire oui, ça fait vraiment partie derrière d'un besoin, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Je suis allé aussi chercher des soutiens. Deuxième étape. Ensuite, je suis allé chercher des soutiens avec justement, je parlais du parcours adresse qui m'a accompagné en me donnant. Il a décidé de me soutenir et de mettre à disposition des experts. Donc, c'était une quarantaine d'heures d'expertise personnalisée en fonction de mon besoin.
D'accord.
Pour travailler sur le design de service, pour travailler sur les outils de communication, sur la stratégie de levée des fonds également.
Ouais,
donc, j'ai pu m'appuyer sur différents experts qui avaient derrière des domaines de compétences entre l'économie sociale et solidaire, mais également derrière sur le développement d'une activité entrepreneuriale. Et progressivement, j'ai pu construire ce projet. Je me suis également rapproché d'anciens partenaires que j'avais accompagnés il y a 10 ans de ça. Il se trouve que j'étais dans un club Cigale déjà avant même d'entreprendre.
Qu'est-ce que c'est un club Cigale?
Un club Cigale, c'est un groupe de citoyens qui ont décidé de se réunir et tous les mois, ils mettent 10, 20, 30 euros par mois dans une cagnotte et ils décident, quand ils ont suffisamment d'argent, 3, 4 000 euros, de financer des projets locaux.
D'accord.
Et il se trouve que, quand j'étais basé à Lille, on a créé un club Cigale en 2008 et notre premier projet qui a été financé, c'était en 2009 et c'était un acteur qui s'appelle Croque la Vie à Lille et qui fait des repas 100% bio pour la petite enfance.
Et donc, c'est bien développé d'ailleurs.
Et ça s'est très bien développé, effectivement. Aujourd'hui, Croque la Vie distribue des repas auprès de 150 crèches. Plus de 3000 repas jour, une vingtaine de salariés. Donc c'est une activité qui est déjà vraiment dans un rythme de croisière et qui est sur orbite. Donc on s'est rapproché avec cet acteur-là et on a décidé de construire un réseau coopératif au niveau national. Une société coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, au niveau national pour réunir un savoir-faire sur la fabrication de repas 100% bio pour la petite enfance, pour les moins de 3 ans. Et cette coopérative, cette SCIC, a pour objectif d'accompagner des porteurs de projets sur d'autres territoires pour essaimer, dupliquer, s'inspirer de ce modèle et de pouvoir développer leurs projets de manière indépendante, mais réunis au sein de cette coopérative autour de valeurs, autour des valeurs basées autour de l'homme, de la qualité, de l'excellence nutritionnelle pour les enfants, etc. Et une fois en activité, de faciliter le développement de chacune des structures. Voilà, on est un peu... Pour certains banquiers, certains banquiers me disaient, bah tiens, mais en fait, on est un peu comme, en fait, une sorte de franchise de l'économie sociale et solidaire.
C'est ça, ouais.
Et on a
fait
un peu ce genre de fonctionnement, mais on fonctionne différemment qu'une franchise. On est vraiment sur une structure et un réseau coopératif au niveau national.
Il y a un terme qui revient souvent chez vous, c'est ESS, économie sociale et solidaire. On va en reparler dans un petit instant. Vous restez avec nous, Richard. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour Le goût d'entreprendre, seconde partie de cette émission avec Richard Julien qui est notre invité. Il vient de créer Petit Bio et à nos côtés Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos référents ô combien précieux, référents éthiques pour Le goût d'entreprendre. Et Jean-Marie, que vous inspire Petit Bio? Première question à votre invité.
Ah bah d'abord, je suis admiratif parce que c'est un très bon exemple, je dirais, d'une volonté de répondre à un besoin qui est peut-être un petit peu diffus, mais qu'on sent bien, et un exemple où vous êtes parti d'une façon qui est extrêmement méthodique et attentive à beaucoup de choses, et je trouve que c'est un très bon exemple pour nos auditeurs. Et alors, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est qu'on développe un petit peu la notion des valeurs auxquelles vous allez vers de tenir et qui vous ont motivé et qui sont au centre de votre préoccupation pour développer cette entreprise.
Oui.
Il me semble que vos valeurs sont un point important.
Oui, complètement. Ma volonté... après avoir travaillé 13 années dans les stratégies et les projets de développement durable, notamment pour les territoires ou d'autres structures associatives ou organisations internationales, moi, ma volonté, l'esprit était vraiment de pouvoir démontrer que l'on peut développer une activité économique avec des valeurs, notamment humaines, ou en tout cas en prenant en compte les différents types de parties prenantes et son environnement. Son environnement, pas juste écologique, mais également l'environnement type géographique et les individus qui sont autour. Et donc les valeurs aujourd'hui concernant Petit Bio, elles sont au nom de trois. Il y en a une qui est vraiment la proximité avec les crèches. Mm-hmm. Donc la volonté, et dans l'ADN de Petit Bio, la volonté c'est vraiment de permettre aux crèches de penser ou de sentir vraiment, d'avoir l'impression que cette cuisine, c'est une cuisine qui est partagée et il y a vraiment une relation de proximité avec elle, où on écoute, on fait évoluer l'activité en fonction de leurs besoins, etc. Premièrement, donc, cette valeur de proximité, on pourra en revenir si vous voulez. Deuxième, les deux autres valeurs sont la qualité et la sécurité des repas. La qualité sur l'excellence nutritionnelle. Il est obligatoire de toute manière de respecter les normes d'hygiène alimentaire. Ça, c'est obligatoire et c'est indiscutable. Mais sur la qualité notamment des produits également. Donc sur la, on le voit de plus en plus d'études sortent sur la composition derrière, le contenu des fois de résidus de pesticides et de contaminants qu'il peut y avoir.
Les normes sont de plus en plus strictes et vont l'être encore dans les mois qui viennent.
Et donc l'enjeu, c'est vraiment de rester sur cette qualité-là. Et donc le bio, pour moi, est un moyen. Ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et donc dans la qualité-là. Et la sécurité, c'est aussi, au-delà des normes d'hygiène alimentaire, c'est également d'assurer une livraison continue. Tous les jours, les enfants doivent recevoir, doivent manger à 11h15, 11h30 le matin, et elles doivent, donc dans ce cas, les crèches, recevoir leurs produits avant 10h. Donc il y a un engagement d'ailleurs de sécurité d'approvisionnement également. Donc ces trois valeurs-là, pour moi, c'est dans l'ADN de la structure. Et au-delà de ces grandes valeurs orientées quand même service, oui, il y a derrière des valeurs autour de l'homme et de l'esprit d'équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que ma volonté, on a évoqué tout à l'heure le terme d'économie sociale et solidaire, ouais, de développement durable, l'enjeu c'est vraiment de développer une activité qui permette au niveau de l'équipe qui va confectionner les repas et livrer les repas, de se sentir vraiment dans une équipe. J'ai fait beaucoup de sport collectif, je sais que c'est important de travailler ensemble et on réussit ensemble, c'est pas seul qu'on va réussir. Et donc en permettant à chacun, en donnant de la confiance et des responsabilités, mais de la confiance et des outils pour communiquer et bien s'entendre, on peut permettre à chacun de s'épanouir dans son activité. Et dans l'outil de production et dans l'activité, la volonté, c'est vraiment que chacun trouve sa place, trouve des solutions et puisse les mettre en application. Et cette volonté-là, en fait, dans les valeurs autour de l'homme, il y a une volonté à ce niveau-là. Autre chose, et pour terminer au niveau des valeurs, ces valeurs-là, je veux aussi les intégrer au sein, d'ailleurs, du fonctionnement de l'activité. Et on le voit notamment dans les statuts. Aujourd'hui, la volonté, c'est d'obtenir un agrément spécifique qui est derrière une reconnaissance d'entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qui permet de reconnaître que l'activité en tant que telle, dans son fonctionnement et notamment dans sa gouvernance, permet en tout cas aux individus et à l'activité d'avoir un développement plus respectueux de son territoire, de ses hommes et de son environnement écologique. Et donc du coup, la volonté, c'est notamment d'intégrer une gouvernance qui va permettre de discuter avec les différentes parties prenantes et d'écouter et d'impliquer les parties prenantes dans le développement de l'activité, premièrement, de limiter l'écart de salaire, notamment entre les plus hauts salaires et les plus bas salaires, notamment. On le voit dans certaines études encore aujourd'hui, notamment dans les entreprises du CAC 40, hein, dans les derniers journaux, on a vu quelques éléments.
On est champion quand même en France.
Il paraît. Donc la volonté dans les valeurs, c'est vraiment d'intégrer ça dans l'ADN pour vraiment que l'activité puisse se développer. Ouais. Pareil, je pense, on parle en termes de développement de l'activité, en termes de redistribution des bénéfices. La volonté, c'est encore une fois de partager ça avec tous les acteurs qui ont contribué également ensuite et de sécuriser le développement de l'activité, donc en réinvestissant dans l'outil et de production.
Alors Richard, si vous le permettez, Jean-Marie également, passons à la phase concrète, la fabrication. Comment vous faites ? Donc vous livrez tous les jours, c'est vous qui fabriquez, c'est vous qui cuisinez, vous êtes combien dans l'entreprise ?
Alors, l'entreprise qui est en cours de création, oui, va se développer très rapidement d'un point de vue ressources humaines. Aujourd'hui, il est prévu de commencer à 2 voire 3 en fonction du nombre de repas qui va se confirmer dans les prochaines semaines avec les crèches. Ouais. Et très rapidement, on arrivera à 4-5 sur la première année, année et demie. Et l'objectif, c'est d'arriver à une dizaine de salariés d'ici 5 ans.
Donc là, vous recrutez.
Donc là, je suis en train de recruter. Je cherche d'ailleurs un ou une chef de cuisine issue de la restauration collective. Bon, le message est passé.
Voilà, le message est passé.
Et donc du coup, oui, effectivement, comment ça fonctionne ? Eh ben, on est sur une activité de restauration collective en liaison froide. Restauration collective, ça veut dire que l'on travaille sur des gros volumes, que l'on doit prendre en compte derrière des besoins, on va dire, de 500 à 1500 repas jour.
Ouais.
et que pour cela, il faut d'ailleurs avoir une structure qui s'organise. Oui, on prépare des menus un mois et demi à l'avance, les crèches passent des commandes, on reçoit les commandes et on transforme ça en fiches d'approvisionnement et en commandes au niveau où on s'approvisionne, on stocke. On découpe les légumes, parce qu'on aura d'ailleurs aussi une légumerie sur place où on veut vraiment transformer le plus possible et on veut vraiment absolument éradiquer les produits industriels, type fond de sauce industrielle, etc., pour vraiment maîtriser le contenu derrière des repas, donc vraiment transformer sur place avec la légumerie.
Il vous faut un grand labo ?
Il faut un laboratoire, effectivement, une cuisine centrale relativement importante pour permettre l'évolution de l'activité. Et donc, on transforme tout ça, on prépare en préparation froide, en préparation chaude, on conditionne tout ça. Et on refroidit. Et on livre tous ces repas ensuite nous-mêmes avec notre livreuse, qui sera aussi l'ambassadeur parce qu'il sera en relation, elle sera en relation avec les crèches au quotidien également.
Jean-Marie, une autre question.
Alors, vous parliez de la production, je pose une question de détail. Quel est le cycle habituel ou le cycle visé dans votre type d'activité ? Je ne me rends pas compte, c'est quelques heures, quelques jours, quelques semaines ?
Non. C'est une excellente question qui me permet de préciser qu'effectivement, on est dans une activité où l'objectif, c'est de proposer des repas à date limite de consommation à 3 jours. C'est-à-dire que ce sont des repas frais que l'on propose.
Ouais.
Notamment pour préserver le plus possible les propriétés nutritives, organoleptiques des repas. Donc on n'est pas sur de la conserve, on n'est pas sur ce genre de produits où on va perdre encore une partie des nutriments. Là, la remontée, c'est vraiment des repas frais. Donc on est sur une DLC de 3 jours et donc on est sur un process d'organisation en liaison froide, où on va pouvoir optimiser et travailler sur un process de production avec cet objectif-là, et également d'ailleurs avec toutes les normes d'hygiène alimentaire, et on travaille derrière sur un processus de fabrication à ce niveau-là.
Jean-Marie ?
Alors une autre question, vous avez vécu votre démarrage, votre création jusqu'à présent avec un certain nombre de contacts autour de vous qui vous ont certainement beaucoup aidé et vous avez été attentif à recueillir le maximum d'éléments, certainement, on le sent bien. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui en France, ceux qui veulent créer une entreprise sont vraiment aidés ou je crois que ça peut intéresser nos auditeurs de sentir quel est le climat actuellement pour des créateurs d'entreprises, des jeunes en particulier?
Je vous confirme qu'en France, on dispose vraiment de très très bonnes conditions. Je n'ai pas l'expérience ailleurs, dans d'autres pays, mais de part d'ailleurs les différents dispositifs, les moyens qui sont mis en place, les entrepreneurs ont à leur disposition, en tout cas, un ensemble de dispositifs, de solutions, de financement qui permettent vraiment de soutenir le développement, de passer de l'idée au projet, de passer du projet à vraiment la structure et à l'activité, et même d'ailleurs sur le changement d'échelle, une fois que l'activité a confirmé son modèle économique, de changer d'échelle. Ça, ce sont les généralités. Après, en fonction d'ailleurs de l'idée et du projet, ça ne va pas forcément d'ailleurs rentrer dans les cordes ou être accepté. Donc il y a un ensemble d'éléments à bien prendre en compte. Un des enjeux pour l'entrepreneur, c'est d'être sensible, attentif, conscient à son marché et à son environnement et à tous les signaux qu'il reçoit sur le parcours qu'il a. Moi, je le vois comme un chemin, en fait. C'est vraiment un chemin où on rencontre et il faut qu'on soit attentif, conscient. Il y a des opportunités, je les saisis pas. Qu'est-ce que je veux au fond de moi? Comment est-ce que je suis aligné moi-même? Et vers où je veux aller? Et quelles sont les concessions, les compromis que je suis prêt à faire pour avancer dans la direction qui m'importe le plus?
C'est beaucoup de questions que vous vous êtes posées.
Oui, complètement. Et puis déjà, tout simplement, de passer d'un statut de salarié à un statut d'entrepreneur, jeune parent, avec une famille, avec derrière tous les... Voilà. Donc du coup, il y a énormément de choses qui ont, en tout cas, été...
Ça a impacté votre vie personnelle.
Il y a eu pas des freins, mais énormément de phases de questionnement, de réflexion. Et le processus d'entreprendre prend du temps. C'est comme s'il y a un changement, une transformation, une mue qui se passe et c'est vraiment important et ce temps-là est nécessaire. Des fois, certains entrepreneurs veulent aller trop vite et c'est important des fois de se donner un peu le temps parce que c'est vraiment une mue quand on passe d'un changement et à une culture à une autre en tout cas.
C'est ça. Et il faut être agile, flexible, c'est-à-dire savoir, vous le disiez, être à l'écoute.
Tout à fait. Être à l'écoute de son environnement, de tous les gens que l'on rencontre, de son marché également, effectivement, c'est très important. On a, par exemple, quand on est entrepreneur ou quand on veut, on a des idées, ou une idée bien précise, même le service, l'activité qu'on veut faire. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, on va recevoir des signaux qui vont confirmer ou inviter à regarder les choses des fois un peu autrement. Et c'est important d'être attentif à tout ça pour être capable de faire évoluer sa première idée et de l'adapter progressivement à un besoin. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu ou la finalité de l'entrepreneur ou de la personne qui a cette idée-là? Est-ce que c'est vraiment d'être têtu, dire c'est cette idée-là que je veux développer? ça va être très difficile pour lui en fonction, je vais être capable d'être résilient et de m'adapter et de faire d'adapter cette idée-là à un vrai besoin qui correspond au marché.
Jean-Marie, nous sommes un peu pris par le temps. Une toute dernière question.
Je ne sais pas si c'est une question, mais moi je me réjouis parce que ça veut dire que nos petits-enfants risquent de se porter mieux que leurs ancêtres, et surtout dans un contexte qui est aujourd'hui assez compliqué à vivre, avec tout ce qu'on nous annonce comme horreur sur les effets des pesticides, des produits phytosanitaires, de tout ce qu'on veut. Alors moi j'ai tendance à être plein d'admiration, et vous allez certainement réconforter nos auditeurs en tout cas.
Merci Richard, merci d'être venu nous rencontrer dans Le Goût d'Entreprendre à Radio Présence. Juste une petite dernière question pour vous embêter. Qui est-ce qui cuisine à la maison? Qui est-ce qui prépare les repas des petits? Attention, on va vous piéger.
Non, j'ai tendance à être en ce moment très actif et très présent en cuisine en ce moment.
Qu'est-ce que vous faites à manger par exemple?
Hier soir encore, je cuisinais des coulis de tomates avec des vraies tomates. C'est pas forcément encore la saison, mais voilà. Et puis derrière, des plats à partir derrière de... Voilà, on essaie d'improviser avec les produits de saison que l'on a justement pour proposer des plats et adapter par rapport aux besoins nutritionnels. Mais on cuisine frais à la maison, encore une fois, ça prend du temps, mais c'est un vrai plaisir de partager ensuite le repas ensemble.
Et de tester aussi l'activité de Petit Bio. On vous retrouve facilement sur le net, Petit Bio. Petit, c'est écrit P-E-T-I-B-I-O.
B-I-O. Petit Bio avec un seul T.
.fr pour vous joindre facilement. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence pour Le Goût d'Entreprendre. Si vous souhaitez nous joindre, c'est très simple. Appelez-nous ou entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'Entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des Entreprises et des Professionnels de Midi-Pyrénées.